Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité AAU.
Moi, je vais rebondir encore une fois d'une manière un peu impensé, ouais, je sais pas si c'est le mot, mais ça m'a fait récemment, j'ai dû me replonger dans les écrits de Durkheim pour une commande de texte, et surtout la vie religieuse, les formes élémentaires de la vie religieuse et toute sa vision religieuse séculaire de ce qui fait société. Et surtout les extraits où il se base sur les ethnographies anglaises en Australie, chez les peuples sur lesquels la colonie australienne s'est greffée, des Arunda en particulier, leur rituel, et alors toute la forme de la vie, toute la notion du sacré en fait, et du rituel. Et comment dans ses premiers écrits, il a toute une attention vers les formes d'attention collective qui divisent le quotidien, le profain, ce qui est devant l'église, devant le temple, de ce qui est un sort d'espace et un temps sacré. Et ça se fait à travers, d'une manière, cette histoire autour du jus de pommité, c'est presque les mêmes passages en fait que Durkheim utilise. Et ce jus ou ce vin devient sacrement, et le sacré, c'est rien d'autre dans la vision de Durkheim, c'est rien d'autre que ce moment collectif, cette sorte d'effervescence qui se produit et se reproduit, qui doit, d'une manière, la société doit toujours se reproduire. Et plus tard, dans ses écrits, ça devient moins autour du rituel, du geste, de toutes les formes d'attention et des corps qui sont ensemble vers le symbole, vers le contenu. Et toutes ces questions du contenant est oubliée presque, et surtout comme elle a été prise dans l'anthropologie structurelle. Je vais où avec ce détour ? Mais ça m'a, ouais, voilà. Mais ça m'a fait penser à quel point le film peut être ce sacrement, en fait. Peut être, de comment tu parlais du public. En fait, ça résonnait beaucoup avec ce que j'essaye de, dans cette sorte de bref replongée dans le travail de Durkheim, la place du rituel et autant au centre du social, en fait. Du social, pas comme une chose désaconstruite, mais comme toujours un devenir, quoi. Toujours quelque chose qui émerge et qui doit émerger et qui n'est pas un truc comme je... Mais j'ai adoré ces scènes à la fin avec ces discussions. C'est exactement dans ces moments de parole, de discussion, de confrontation que quelque chose se passe. Je vais m'arrêter là. Avec ce...
C'est un rebond, un peu impensé aussi lui-même, mais c'est parce que c'est un rebond sur Durkheim pour revenir donc par la bande, mais parce que chez Durkheim, moi, ce qui me semble manquer dans ces histoires sur le sacré, c'est qu'il y a pas de, il y a plus d'entité invisible, il y a plus de dieu, et on n'en a pas besoin parce que c'est juste la communauté qui se célèbre elle-même à travers et du coup en formulant ça. En le rapportant à la question que je trouve très intéressante et qui peut pas manquer par écho de nous faire réfléchir aussi sur ces espaces de séminaires qui sont eux-mêmes des contenants. Et en lien avec une remarque que Christelle Gramaglia a faite ce matin sur qu'est-ce que les objets nous font faire, j'ai quand même un questionnement sur le fait que s'intéresser aux contenants un peu indépendamment des contenus, que les contenants ont leur importance là-dedans. Et en même temps, je pense que tu penses aussi, ou j'ai la sensation que tu pourrais être d'accord avec le fait que les contenus et donc les types de films ont leur importance dans les types de contenants qu'elles peuvent créer. Les aides sollicitudinaires chez Souriau, ils ont besoin de la sollicitude, mais la sollicitude qui leur est fournie, elle sort pas de nulle part, elle leur est pas étrangère, puisque c'est ces êtres-là qui aussi la nourrissent dans des espèces de boucles un peu comme ça, comment on appelle ça, des boucles rétroactives, quoi. Bon, voilà, c'était juste, c'est plus un rebond que vraiment une question, mais peut-être la question pourrait être, toi, en dehors là de, ou peut-être pas en dehors d'ailleurs, mais de l'expérience dont tu as rendu compte de Murmure, quand tu revois ça à l'aune de la recherche actuelle qui t'intéresse, toi, à ces contenants qui se forment pour... Comment est-ce que les films en eux-mêmes, peut-être les types de films ou les types d'objets créent leur propre manière de créer des contenants ? Est-ce qu'il y a des...
Oui. Je vais essayer de continuer les jeux de rebond. Donc, je rebondis. Après, peut-être, rebond par rebond, on va aller quelque part. J'ai envie de... Alors, j'ai envie de dire que parfois, que je suis d'accord avec toi et qu'évidemment, moi, ce que je vous racontais au début de cette histoire de ma thèse, c'était pas pour faire un moment autoréférentiel, mais c'était pour vous donner vraiment un point de départ lorsque je... Donc, j'avais choisi de travailler de manière universitaire sur des films et que c'est des films qui ne se regardent pas facilement sur un smartphone, pas très facilement non plus sur un écran d'ordinateur, et que dans ma thèse, ça se posait pas la question directement de montrer ces films, mais moi, en travaillant sur ces films-là, j'avais envie de les transmettre, quelque part de les programmer, et j'avais aussi des opportunités de le faire. Et que je me suis assez vite rendu compte que ces objets-là, effectivement, pour pouvoir exister et pour pouvoir rencontrer un public, pour que il demandait que des conditions d'attention particulières soient configurées, et que donc je suis totalement d'accord avec cette histoire d'une rencontre entre des objets qui ont leur particularité et des situations de cinéma qui doivent aller dans leur direction. C'est quelque part, ça se passe au milieu, comme beaucoup de choses, et les épistémologies, les ontologies un peu écologiques, je pense qu'elles parlent beaucoup de ça, de ce qui se passe au milieu et entre. Et donc le cinéma pourrait être un endroit où on peut donner des images, raconter des histoires à propos de ce milieu-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que toujours pendant la thèse, donc comme disait Marc, il m'est arrivé pendant plusieurs années avec des camarades de faire un petit festival de cinéma documentaire expérimental. Itinérant, donc un festival qui se passait à différents endroits avec des films avec des formats et des statuts assez différents, et pour moi c'était un très beau moment d'apprentissage, parfois foireux aussi, avec des échecs, sur comment chaque film qu'on a envie de montrer va nous faire réfléchir à quelles sont les conditions pour que des gens le rencontrent. En partant du présupposé qu'il n'y a pas des gens qui sont capables de regarder certains films et pas d'autres, et que donc peut-être si tu arrives à construire le bon contenant, tout le monde est capable de regarder certains films qui pourraient paraître au début un peu farfelus, un peu perchés, un peu exclusifs, etc. Et pour vous donner juste un exemple, on avait beaucoup envie de passer un film qui s'appelle Mafrosa, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un film d'une réalisatrice française sur un quartier d'Alexandrie en Égypte, très beau, mais qui dure 12 heures. Bon, donc c'est quand même un objet un peu problématique à manipuler et à proposer à des gens de regarder. Comme je vous disais, nous-mêmes, on était les premiers à être incapables de regarder ces films. Donc on s'était reparti chacun regarder 2 heures et après on s'est raconté. Et dans les deux heures, chaque fois, c'était très bien. Donc on dit, bon, si on les met bout à bout, ça va être très bien aussi. Mais on était très dans l'embarras de comment on fait à montrer ces films-là. En sachant que si on se mettait dans une salle de cinéma, même très confortable comme celle-ci, pendant 12 heures, bon, ça aurait été une espèce d'appening, on pourrait plus faire des choses, mais bon, c'était dur. Et donc, ce qu'on avait concocté, c'était qu'on faisait un week-end entier. C'était une projection week-end qui se passait dans un petit théâtre du centre-ville qui s'appelle maintenant Midi... Oui, non, Midi-Minuit. Donc c'est un petit théâtre qui est, peut être converti en salle de cinéma pour 12 personnes, 15 personnes, mais qui a une espèce de salon et cuisine. Et donc on proposait de regarder, de faire une session de visionnage le matin. Un petit repas ensemble, donc on regardait 3 heures le matin, on faisait un repas ensemble, on regardait 3 heures l'après-midi, on prenait l'apéro, donc on continue à discuter. Après les films, donc, ça, si ça dure 12 heures dans les fichiers, il va durer 20 heures dans notre vie, parce que du coup on mange en discutant du film, ou en discutant d'autres choses aussi. Et donc après on s'est retrouvés le lendemain matin, dimanche, et donc on continue à regarder, et on mangeait, on continue de regarder. Donc on a essayé de faire quelque chose qui a permis à pas beaucoup de monde, parce que c'était un peu audacieux, notre affaire. Et donc il y a eu quand même quelques personnes qui a pu voir ce film, dont je pense très peu de monde peut dire l'avoir vu en entier. Donc non, c'est juste pour donner des exemples qui vont directement dans ton sens, tout en sachant que, dernière chose, moi ce qui me tient à cœur aussi, c'est de dire que les contenants construisent les contenus. Donc si je mets l'accent sur les contenants, c'est parce que, évidemment, même si ça devient de plus en plus évident, mais que la gentilité des milieux ou des technologies de récipients, technologies de livraison est quand même assez cachée. Donc c'est intéressant de mettre un peu l'attention là-bas et de parler de ça. Mais c'est aussi que, par exemple, les contenants modifient la manière de produire des contenus d'une manière assez évidente. Par exemple, dans l'histoire du cinéma, je parle avec pas un profil d'historien, donc je sais pas s'il y a des personnes qui connaissent mieux que moi, mais l'avènement du long métrage, c'est lié à, par exemple, à des conditions techniques d'exploitation par les salles de cinéma qui ont envie de faire des programmes longs, etc., et pas des petits courts comme au début qui tournaient par des forains, etc. Donc le format long, c'est aussi quelque chose qui devient possible lorsque, dans les années 10 et 20, les salles de cinéma, certaines salles de théâtre, de spectacles vivants sont converties en salles de cinéma, et que donc on produit des contenus qui puissent être vendus à un public pour qu'il reste une heure et demie, deux heures. Et maintenant, par exemple, les contenus audiovisuels qui sont pensés pour être diffusés sur des plateformes, un streaming, il s'est posé la question, par exemple, de comment faire fabriquer des films qui soient adaptés au contenant de la plateforme et au contenant de la plateforme qui fonctionne avec une diffusion à la demande, une diffusion à la demande qui peut, par exemple, se produire sur un truc comme ça, ou bien sur un truc comme ça, ou bien sur un smartphone. Et que donc, par exemple, faire des plans très larges, très amples, détaillés, etc., pour faire des images très compliquées de paysages qui pourraient être très belles vues sur un grand écran, n'ont pas de sens si on les regarde sur un petit écran. Donc il y aura une manière de filmer, de monter, etc., qui est très liée au rythme d'attention qui est spécifique à ces contextes diffusion et contenants. Donc parfois, les contenants, je pense, produisent le contenu.
Parce que moi, je pensais à... ce que tu dis, c'est... Ben non, mais en fait, tu viens de le dire. J'ai pas besoin de... Non, mais c'est ça, quand le contenu crée son contenant. C'est ça que tu as dit à la fin.
Non, les contenants, ça crée aussi le contenu.
Moi, le contenant dit le contenu. Alors moi, je dis l'inverse.
Non, moi, j'ai dit les deux. Donc,
ah oui, OK. Donc, on dit...
C'est la meilleure manière pour avoir raison.
Non, mais parce que moi, je pense... On a eu plusieurs années de suite la possibilité de voir les mises en scène de Julien Gosselin, qui sont des mises en scène fleuves de 9h ou 10h. La dernière en date qu'on a eu, c'était Roberto Bolaño, 1666. Et je crois qu'il y a 9 heures de pièces, mais il y a 12 heures de programme, parce qu'il y a 3 heures d'entracte. Et la sensation que j'avais eue et qu'on avait eue avec les personnes qui avaient vécu ça à la fin, c'est qu'on était plus disponible et attentif au terme des 12 heures qu'on ne l'était le matin en arrivant à 10 heures. Parce que la pièce elle-même sa temporalité nous avait échauffé et éveillé plutôt que de nous fatiguer. De nous... Donc ce serait un cas où le contenu a créé le contenant,
ouais, c'est encore une autre
a créé son écologie. Ça, okay. Et son...
Oui,
okay.
Oui, c'est juste une question plutôt de clarification conceptuelle. Je me demandais en fait la différence que tu fais entre le contenant et la notion de dispositif chez Agramben par exemple. Est-ce qu'il y en a une de différence? Et puis, du coup, quelle place est laissée à la notion de médium? La lumière, le son, qui n'est pas complètement superposable au contenu même du film, et qui n'est pas non plus peut-être assimilable uniquement à la question du contenant. C'est-à-dire que, il me semble qu'il y a, pour moi, il manque un troisième terme, qui est celui de médium, et qui est peut-être un terme intermédiaire entre le contenant et le contenu du film. Enfin, c'est une question que je me pose, quoi. Et du coup, sur la question de l'attention, qui est aussi très présente dans ton questionnement, je me demandais comment tu intégrais en fait ce que raconte Raymond Bellour sur l'hypnose comme condition de réception constitutive en fait de l'expérience cinématographique.
Si je parle beaucoup de contenant, c'est juste parce que je suis tombé dans le goût, dans ce texte, dans le chaudron de ce texte de Zoé Sophia que j'aime beaucoup, qui s'appelle Container Technologies, où elle, en parlant de Container Technologies, elle parle de beaucoup de choses qui pourraient être résumées sous le terme d'infrastructure, donc tout ce qui fait l'infrastructure qui approvisionne et qui rend possible certaines expériences. Elle parle aussi des choses très très concrètes, hein, de supply technology par rapport à l'eau, la manière dont l'eau arrive chez nous. Et avec ces termes de contenant, ces textes, je l'utilise par exemple dans un cours qui s'appelle Théorie des médias de la publication, où le but c'est d'aller parler de médium. De médium comme pour moi, c'est médium comme un milieu qui permet à l'information de circuler tout en la transformant. C'est cette affaire de Bruno Latour. Et qui donc mobilise d'une manière spécifique des contenus. Quand je parle de milieu, je parle de milieu au sens de Jussi Parikka, qui dit que qu'est-ce que c'est qu'un milieu, un environnement, c'est une certaine configuration particulière du temps, de l'espace et des capacités d'action. Le médium milieu, le médium et le milieu, dans leur quelque part équivalence, c'est une certaine configuration de l'espace, du temps et de l'agentivité. Et pour moi, c'est une bonne manière aussi d'écrire les situations de cinéma. Et sur la question du dispositif, alors j'ai passé beaucoup de temps dans ma thèse, à ne pas faire ma thèse, mais à lire presque intégralement Agamben. Donc c'était un peu une obsession. Je suis assez content qu'on parle d'Agamben, même si je suis en forme de sévrage, donc j'essaie de plus le citer. Et que je trouve que les discours sur les... On a beaucoup discuté avec des amis chercheurs sur cette question de dispositif et sur pourquoi parler de... Moi, j'aime pas trop utiliser le mot dispositif dans l'acception d'Agamben, qui est dérivée de Foucault, et qui reprend et qui reformule Foucault, dans la mesure où il y a une forte connotation de contrainte ou de canalisation. Il y a la question d'une domination qui s'insinue et qui donc subjective, il y a une forme de subjectivation avec une variabilité, mais je préfère parler de milieu parler de médium, pas en termes de dispositif, mais plutôt en termes de milieu, comme quelque chose dans lequel on est inscrit, mais comme dans chaque milieu, on est dans un rapport mobile, dans un ensemble de relations qui bougent, et qu'on détermine autant qu'on est déterminé. Donc j'ai l'impression que quand on parle de milieu, il y a quelque chose de plus vivant et de moins inscrit dans une pensée de la domination et, de, et, des, et du conditionnement, etc. Mais je sais pas, je crois qu'il y a un... c'est un point conceptuel assez délicat et que qui est assez intéressant à creuser. Pourquoi utiliser le mot milieu plutôt que dispositif? Et je me souviens plus de cette histoire de lumière, obscurité, etc. Pour moi, probablement je ne l'ai pas trop dit, mais évidemment que c'est très, très important, les conditions, cette ambiance visuelle, sonore particulière qui se crée à travers un appareillage technique et qui est quelque part qui a été modulé à partir de l'étalon du modèle de la salle de cinéma, mais qui ensuite on peut essayer de reproduire à différents endroits. Donc reconstruire cette atmosphère, ces climats visuels et sonores en reprenant ces conditions-là et justement les délocalisant ailleurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ces environnements-là, c'est des environnements nomades. Et typiquement, il y a toute une pensée du cinéma qui est un peu réac, je crois, et en même temps avec des bonnes raisons, qui fait vraiment un sanctuaire de la salle des cinémas, mais au sens dur du terme. Alors Belour, je ne connais pas, je connais un peu ce qu'il pense, mais j'ai pas lu récemment, et donc j'ai pas très envie de me confronter directement à ça. Mais ce que j'ai envie de dire, ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont cet environnement-là, ce médium-là, qui est celui de la projection collective, devient itinérant et il se réinvente, notamment grâce à cette souplesse et disponibilité qui est celle des technologies numériques. S'il y a une des choses dans mon travail de vraiment de chercheur qui m'intéresse, c'est vraiment de travailler sur comment des associations, des collectifs, etc., ils s'approprient ce médium-là, cette condition-là qui est devenue une condition un peu d'hypnose collective, et qu'ils l'inventent et ils le bricolent à partir des nécessités qui sont les leurs. Et je parlais par hasard de À bientôt j'espère. Ce sont des amis qui font des choses très belles sur Grenoble et qui ont inventé au début, qui sont nés autour d'un dispositif très réussi de cinéma chez l'habitant, où ils inventaient un espace comme ça d'hypnose, d'attention dans l'obscurité, dans un dispositif sonore, dans les salons, chez les gens, dans un salon. Donc un truc qui serait a priori totalement incompatible avec cette expérience-là. Mais comment on crée des milieux, ce qu'on peut appeler des milieux hybrides, qui au milieu un peu métamorphe, qui devient des salles de cinéma et après redevient autre chose. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue.
Donc merci pour cette réflexion, présentation et le film. Moi, j'ai été très intéressée par cette réflexion sur le contenant avec Marie Luçon qui a réalisé le film qu'on a présenté hier. On s'intéresse aujourd'hui à l'utilisation du film dans des espaces de débat sur la co-construction en fait de projets de restauration de rivières, parce que on s'est aperçu qu'évidemment dans les concertations habituelles, c'était des débats entre humains et c'était très compliqué de rendre la rivière présente dans des espaces de débat. Et c'est ce que mon mari est en train de faire, un film un peu d'ethnographie sensorielle là, pour essayer de transporter justement la rivière dans l'espace de débat. Donc tout ce que vous avez dit sur le milieu qu'on recrée, moi, m'a beaucoup intéressée. Et je me posais une question, en fait, j'ai deux questions. Une sur les œuvres de fiction et les documentaires. Est-ce que cette réflexion que vous développez sur le contenant, elle est identique, où il y a des nuances à faire sur le documentaire? Là, nous, on est sur un film pareil, qui va durer 1h30 sur les rivières. On se demande ce qu'on peut montrer à des gens, des riverains qui veulent savoir ce qu'on va faire de leur bout de rivière. Et sans doute que le milieu, le contenant à créer a d'autant plus d'importance dans ce cas-là pour attraper, alors que les êtres de fiction peut-être ont une capacité de capture supérieure. Et la deuxième question, elle porte plutôt sur l'attention. Est-ce qu'on peut définir l'attention de manière générale et atemporelle? Vous parliez des nouveaux médias. Moi, je vois les étudiants, ils ont une consommation de vidéos qui est à la fois très importante et en même temps pas du tout. Je leur proposais de visionner des vidéos en ligne et ils m'ont dit non, mais 2 heures, on va pas regarder Donna Haraway en conférence 2 heures. Enfin, ça leur semblait. Je leur disais, mais c'est formidable, vous avez accès à tout. Et je pense aussi à mon fils qui a 8 ans et il y a 15 jours, ils sont allés voir au cinéma. Une série de films très courts qui s'appelle Les Pionniers du cinéma. Je pense que tous les enfants font partie de dans les écoles, il y a ce programme-là. Et qui est revenu, alors je dis alors ça t'a plu? Et il m'a dit, mais attends, si on a vu un film, ça s'appelait L'entrée du train à la Ciotat. Et je me disais, bah oui, effectivement. Donc évidemment, on lui a expliqué le contexte, etc. Et je me suis rendu compte que les enseignants n'avaient pas fait de ce boulot-là d'explication. Qu'est-ce que voulait dire ce film pour les générations qui l'ont vu, pour la nôtre qui réfléchissent, et aussi qu'est-ce que c'est l'attention aussi de ces jeunes générations qui sont saturées d'images. Voilà.
Bon. Juste sur le film qu'on a vu hier et la question de la rivière, c'est un problème qui me parle beaucoup après l'expérience de thèse que j'avais menée à Grenoble, où un des problèmes de l'argumentation les plus importants, c'était d'essayer de proposer des réflexions autour de comment il fallait sortir, donc s'éloigner, quelque part de manière assez radicale, de certains environnements pour pouvoir mieux les apercevoir ou mieux y rentrer. C'est-à-dire cette condition un peu troublante et ambivalente où... pour pouvoir quelque part comprendre ou faire une expérience de certains milieux vivants qui étaient l'objet des films sur lesquels j'ai travaillé, peut-être qu'il valait mieux pas se rendre sur place directement, mais se renfermer dans une salle noire, donc très loin, et donc qu'on pouvait avoir une expérience de ce que c'est que la vie dans l'arrière-pays montagneux de la Calabre. En le regardant dans une salle de cinéma à Grenoble. Et donc c'est un paradoxe de ce que j'appelais, avec un truc un peu tordu, la médiation immédiate. Donc, c'est-à-dire le fait que c'est pas qu'il y ait une forme de sensibilité, dans le sens de sensibilisation, quelque chose qui se fabrique et qui advient, qui passe par des dispositifs de médiation et qui passe pas par l'immédiateté, qui est un des grands rêves de certaines pensées écologiques ou que bon, quelque chose qui refait surface, je pense, dans les milieux de réflexion autour de l'écologie, ou cette évidemment avec plein de biais et de vices, des problèmes, mais là donc le rêve de cette immédiateté est que la meilleure manière pour rentrer en contact ou comprendre un milieu, ce serait de juste être là, être présent avec une forme d'immédiateté, alors que peut-être que par le tour d'une médiation, d'un médium, etc., c'est la meilleure manière d'y arriver. C'était une interrogation. Et sur la question fiction et documentaire, moi, ce que je fréquente le plus, l'endroit où je me situe, c'est surtout les cinémas documentaires de création, le cinéma expérimental. Et donc, mais comme tout le monde qui fréquente le cinéma, c'est très bien, c'est très flou, les barrières entre les genres. Donc ce que je dis vaut pour moi, à partir de mon expérience, de ces objets filmiques qui se situent plutôt du côté du documentaire, de l'expérimental, mais aussi parfois du côté de la fiction, de fiction plutôt d'auteur. Et j'ai l'impression que ces genres de cinéma-là qui fonctionnent assez mal dans les circuits commerciaux, des choses qui ne sont pas des longs métrages, par exemple, qui ont des formats un peu étranges. Soit c'est des ultra longs métrages comme Mafrosa, soit des courts métrages, soit des moyens métrages, qui ne sont pas de la fiction, donc qui ne racontent pas très bien des histoires avec des personnages, des documentaires. Donc ce qui ne fonctionne pas très bien dans les circuits commerciaux, que ce soit celui de salles ou bien celui de, le circuit des plateformes ou d'autres formes de diffusion, a souvent un peu appelé à inventer des choses pour exister, sinon ça n'existerait pas. Ces genres de films sont plus sollicitudinaires que d'autres, je trouve, et ils ont plus besoin d'une forme d'assistance pour rencontrer des publics. Et donc, je trouve qu'effectivement, il y a une particularité liée à ces genres de cinéma qui pousse des collectifs, des groupes, des individus à inventer des choses pour qu'ils circulent et pour qu'ils rencontrent des films, et que c'est pas fait d'une manière plus simple par la distribution commerciale. Et ben, la dernière chose, c'est une question un peu d'époque, c'est la question de notre époque peut-être. Évidemment, l'attention, les régimes d'attention sont multiples, chaque individu a des manières de faire attention et d'être distrait très particulières. Et en général, on est tous dans des dynamiques d'attention collective qui sont façonnées par les médias, les technologies, les supply technologies, les container technologies dans lesquelles nous baignons, et qu'il y a une grande difficulté à regarder certains films dans notre contexte, et que moi je rencontre aussi à l'université. C'est pour ça que quand j'avais participé à des journées professionnelles du secteur de l'éducation à l'image dans le 93, et on discutait de ces choses-là, et j'avais l'impression que souvent l'éducation à l'image est un peu une éducation aux images, mais au sens des contenus un peu esthétiques, des contenus, et pas de la jus de pommité, quelque part. Donc on essaie d'apprendre en montrant des films, en montrant des films qui sont importants parce qu'ils ont été faits à telle époque ou par tel auteur, etc. On essaie d'expliquer des choses qui sont dedans, mais qui peut-être... et c'est une forme d'un pensée, ou c'est un truc sur lequel les gens travaillent maintenant, que ce qu'il y a à transmettre, c'est pas uniquement des films importants, mais c'est aussi un plaisir, une jouissance, une capacité à être dans des environnements particuliers. Et l'éducation à l'image comme une forme de transmission de situations de cinéma plus que de contenu de cinéma, pour moi, c'est assez important. Et ce que j'ai essayé de faire, donc, quand j'ai proposé à certains de mes étudiants volontaires de faire Murmure, c'était de se dire que j'avais envie qu'ils aient la possibilité de éprouver ce plaisir, de se donner rendez-vous l'après-midi et regarder des films ensemble et avoir un petit moment convivial et en discuter librement, etc. Et que l'important, finalement, c'était pas tellement les films qu'on allait regarder, même si évidemment ça m'intéressait qu'on puisse regarder des films qu'ils n'auraient pas regardés. L'idée, c'est qu'on regarde pas des films qu'on regardait chez nous sur notre PC. Mais que pour moi, ça fait une partie de mon aventure pédagogique à la fac d'avoir proposé ça, et qu'on fasse ça avec certains étudiants, parce que je pense que ça leur permet d'aller plus loin dans le fait de profiter de ce genre d'espace d'attention, y réfléchir, peut-être le multiplier, etc.
Bonjour Jacopo. Alors désolé, je suis arrivé un petit peu en retard et je pense que j'ai loupé des éléments importants. Ce qui fait que j'ai retiré mes chaussures, je suis avancé en chaussettes. J'ai une question. Je suis un peu étonné de... Ouais, tu mets beaucoup l'accent sur l'infrastructure, les supply technologies. Alors que de ce que je comprends de ton travail, c'est beaucoup l'accent que tu mets sur les collectifs et les manières de faire avec tout ça qui font que ces infrastructures ne déterminent pas des conditions de réception. Alors j'ai peut-être du coup mal compris, ou ça a été une évolution d'analyse. Et ça me trouble aussi parce que le peu de fois où j'étais allé voir Agamben, je n'avais pas du tout ta lecture voilà, aussi étendue. Mais il me semblait qu'il y avait aussi cette proposition-là de l'insistance mise sur la sensation. Et qu'autour de la sensation s'inventent des usages du corps et s'inventent des dispositions voilà, dans un registre très libre, voire libertaire. Quoi. Et j'avais un deuxième élément. En t'écoutant, je m'interrogeais par rapport à cet ouvrage sur les champs de l'audiovisuel, qui finalement tente une cartographie des expériences de réception des images animées, en essayant de ne pas prendre le paradigme cinématographique comme déterminant tout le reste des expériences de réception. Et je pensais à ça, pas tant pour discuter cet ouvrage, mais pour essayer de comprendre ce à quoi tu travailles. C'est-à-dire, est-ce que c'est... Tu cartographies d'une certaine façon les modulations de la sensation filmique, de la sensation cinématographique, les différentes façons de la recevoir, avec différents degrés de convivialité, différents degrés de politisation autour de ça. Ou est-ce qu'au contraire, tu vas en dehors de la sensation cinématographique dans des endroits où on regarde des images animées, mais où l'on peut aussi voilà, trouver des formes de faire collectif, des formes de convivialité qui sont heureuses, qui sont des récits heureux et qui sont à explorer parce que le cinéma n'a peut-être pas tout dit de la manière de vivre ces images.
Merci Olivier. Bon, peut-être qu'il y avait des choses avant ce que tu as écouté qui t'auraient donné des billes, peut-être pas. Et je vais essayer de reprendre. Donc, peut-être je prends par Agamben. Alors, ce que je disais sur Agamben, ça concerne uniquement sa manière de parler du dispositif. Donc, qu'est-ce qu'un dispositif qui fait partie de... pour moi, de sa manière de critiquer les captures de la subjectivité par les structures de pouvoir, et que j'aurais pu, comme je disais, j'essaie de faire mon sévrage, donc de ne pas trop parler d'Agamben, mais j'aurais pu parler de tout son travail sur la question de la profanation, et quand il dit... donc ça va un peu dans le sens contraire de ce que disait Marx sur le sacré. Agamben dit, bon, le sacré, c'est une condition de séparation où un objet ou une situation est soustraite à l'usage. Donc elle a une propriété, et elle est telle qu'elle, et elle n'a pas accessible aux usages. Et quand on profane, on va dans une zone de séparation, donc quelque chose qui ne pouvait pas être pris, manipulé, bricolé, réinventé, déplacé, et on le ramène dans une zone d'usage possible. Et donc je suis très agambénien pour certains aspects, et ces travaux sur la question des publics, des manières de faire public, et des manières dont des collectifs et des situations de cinéma vont profaner quelque part ces objets absolus, et qui et donc ils vont les, je disais au début, ils les caractérisent, ils les qualifient par l'expérience qu'ils mettent en place. Pour moi, ça va totalement dans le sens de la pensée d'Agamben et de son accent sur la question des usages qui me plaît beaucoup, et sur la question des infrastructures. Je parle de situation de cinéma avec ce texte à nouveau de Zoé Sophia sur la question de technologie contenant, de technologie d'approvisionnement. Mais ma manière de le lire est une manière quelque part assez étendue. Et quand je pense à l'infrastructure qui permet de regarder des films, je pense plutôt pas uniquement aux conditions, à l'infrastructure d'une manière très littérale, donc les boîtes de distribution, donc les salles de cinéma, donc le Projo, etc., même si ça c'est important. Mais je pense ce qui m'intéresse dans les container tech, dans les supply tech, c'est plutôt une lecture qui va mettre en valeur des écosystèmes, donc des environnements où il y a aussi des associations, il y a aussi des boîtes, donc des statuts juridiques, il y a aussi des licences de droits d'auteur, il y a aussi des problèmes de projecteurs, etc. Donc des infrastructures au sens plus littéral du terme et qui va moins du côté de gestes de diffusion situés, etc. Mais donc ces choses-là rentrent dans une dynamique d'un tissage de relations avec d'autres choses, y compris donc dans le groupe de collectifs qui bricolent des infrastructures différentes. Parce que je pense qu'une des grosses questions de la pensée écologique à différents niveaux, c'est comment on déplace les infrastructures, comment on démantèle les infrastructures qui ne nous conviennent pas et on refabrique des nouvelles. Je pense notamment à ce texte qui s'appelle Héritage et fermeture récemment, qui est sorti récemment chez Divergence, qui dit tout ce qu'on a nous arrive depuis des infrastructures, depuis des container tech, depuis des supply tech, et il y en a certains qui sont toxiques, certains qui ne nous conviennent pas, et donc il s'agit d'expérimenter, donc de les démanteler autant que possible, essayer de penser comment on les démantèle et en même temps de les remplacer par d'autres choses qui nous conviennent davantage. Donc il parle surtout évidemment d'infrastructures au sens plus littéral, infrastructures d'approvisionnement d'électricité, bon, et des choses comme ça. Mais moi, j'ai envie de raconter plutôt de manière dont des situations spécifiques, donc des personnes ou des groupes de personnes, inventent ou produisent des manières de faire circuler du cinéma et de rencontrer du cinéma un peu différent et qui répondent aussi aux spécificités de certains contenus cinématographiques. Donc pour les côtés plus recherche et terrain de recherche, c'est sur ça que je travaille en ce moment, donc d'aller voir comment se produisent des aventures de diffusion du cinéma qui se situent au centre de plein de choses, donc d'infrastructures juridiques, d'infrastructures techniques, d'infrastructures économiques, et qui produisent des environnements autres, plus désirables peut-être, ou qui font exister une forme de biodiversité cinématographique que d'autres infrastructures ne feraient pas exister. Et voilà, à cheval entre ce qui se fait sur les plateformes et ce qui se fait en présence, donc des écosystèmes en ligne et offline. C'est un peu sur ça que...
Oui, moi, je 10 000 choses à dire, évidemment. Mais peut-être j'ai envie de ce que j'apprécie vraiment derrière toute ta présentation, c'est le côté côté militant d'une certaine façon, mais dans un sens anti-militant. C'est-à-dire le côté mot d'ordre, le côté, enfin, tu as dit à un moment donné d'ailleurs, si j'avais un mot d'ordre, ce serait celui de... Un slogan, oui, un slogan, d'accord, plutôt que mot d'ordre, très bien. Mais enfin, tu as dit ça, ce qui compte, c'est le contenant. Et alors, je prends une des citations qui me touche assez, là, une des phrases dans les fragments que tu donnes, de Marbeuf, je crois, qui je ne sais plus lequel c'est, qui dit, mais j'ai noté, la surface du visible... Qui est aussi la surface d'extraction de la valeur, okay, ou je ne sais plus, je la retrouve pas comme ça, mais quelque chose comme ça. Et ce truc-là m'a frappé au vol de 10 000 autres choses, parce que je trouve que c'est une très très belle expression de choses contre lesquelles on lutte un peu implicitement dans tous nos travaux sur les ambiances, etc. Et que ça donne une belle image quasi d'une coupe où on arrive à la surface de quelque chose qui a une certaine épaisseur. Il y a un moment donné où les derniers trucs qui flottent, et là, ça échappe et ça y est, ça passe dans le monde de la valeur et donc de la financiarisation, de tout ce qu'on veut, quoi. Et au sens absolument générique et totalitaire du terme, quoi. Et du coup, je trouve que ça donne une espèce de alors de slogan, mais de mot d'ordre presque, c'est-à-dire pour, dans nos travaux, en fait, toute la tâche, tout, ou une représentation de ce qu'on essaye de faire, quand on dit de réintroduire ben, d'autres dimensions du sensible, réintroduire du contingent, donc ce qui va rétablir des contacts entre, rétablir de l'entendement par rapport au sonore, c'est-à-dire aussi de la compréhension, réintroduire du sensible, réintroduire du contenant, mais au sens, alors avec un trait d'union, quoi, c'est-à-dire c'est qui permet de que ça se tienne ensemble et pas au sens de l'opposition au contenu. Et évidemment, quand tu donnes le slogan tel quel, immédiatement, on a tendance à dire ah, mais attends, le contenu, c'est important. Mais c'est bien le contenant en tant que ressaisissant le contenu, justement. Et donc, en tant que co-tenant, que faisant tenir les choses ensemble. Et pour moi, qui suis architecte et d'une génération fort ancienne, j'ai une sorte de soucis en ce moment avec les jeunes générations sur la détestation de la forme, quoi, et qui vient d'une critique d'une période qui était extrêmement formaliste, en même temps que fonctionnaliste, etc., mais où il y avait une dissociation justement entre la forme et la fonction, ou donc entre le contenant et le contenu, au sens où on vient d'en parler. Donc je trouve que ça donne une belle piste, un bel enjeu qui serait de, alors j'ai noté, remonter en dessous de la surface. je trouve ça assez rigolo, qui pose le paradoxe. Tu as parlé, par exemple, tu avais une discussion sur le médium et la médiation. Et moi, à une époque, je présentais nos méthodes d'approche indirecte du sensible, etc., comme des façons d'inventer un processus d'immédiation et au double sens du terme. Enfin, j'aimais bien dans ce jeu de mots, enfin, c'était un jeu de mots sur immédiation au sens de rendre la chose immédiate au sens temporel du terme et de se soustraire à la médiation, quoi. Bon, évidemment en utilisant des médias, mais en les utilisant de façon suffisamment pour que ils se retirent, quoi, et que du sens puisse apparaître, puisse connaître, etc. Et puis j'aime beaucoup aussi ce que tu as dit, c'est toujours le même registre de la production, le souci, l'enjeu de produire des espaces non héroïques, c'est ça que tu dis, hein. Mais alors tu l'as dit, dont on maîtrise le métabolisme, etc. Et moi je pense à une distinction que je fais souvent entre la maîtrise et la conduite, quoi. C'est-à-dire que je pense que le changement de statut, justement, où tu viens de dire, ben, bien sûr il y a des infrastructures aussi, mais c'est plus les mêmes infrastructures, c'est d'autres. Et on est piégé parce qu'on utilise quand même les mêmes mots, etc. Et moi, à une époque, je pense avoir été un des premiers à parler de maîtrise d'usage dans le champ de la conception pour créer un tiers par rapport à la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Et puis ça a été repris assez vite ou inventé par d'autres en même temps. Et moi, je me suis un peu à ce moment réfracté. J'ai dit non, mais la maîtrise, justement, c'est la maîtrise qu'il faut abandonner, c'est l'idée de maîtrise. Et par contre, ce n'est pas parce qu'on abandonne l'idée de maîtrise qu'il n'y a pas de la tenue, ou qu'il n'y a pas de l'orientation possible, ou qu'il n'y a pas de la navigation, dans vos termes à toi et à Yves Citon. Je trouve ce terme-là, je pense à Mireille Marty aussi, à des gens comme ça, je trouve ça extrêmement intéressant de réapprendre à naviguer et pas à vouloir maîtriser ou contrôler, quoi. Et donc moi, je parlais de conduite. De conduite d'autre au sens du pilotage, au sens automobile du terme, quoi. On se conduit, on s'adapte à la situation, même si on va où on va, on ne sait pas par où on passe, etc., etc. Bon, voilà quelques commentaires. Mais en tout cas, je trouve vraiment une espèce de dénonciation de précision sur l'enjeu écologique contemporain. Pour donner envie de faire sans s'opposer ou sans justement, enfin, toute la thèse que vous avez développée par rapport à l'effondrement et tout ça, quoi.
Merci, je voulais juste je prends ce que tu me donnes et peut-être te remercier en particulier pour cette affaire de contenant. Parce que ce qui, je pense que ce que fait l'infrastructure, ça nous fait tenir ensemble, ça nous contient, ça nous fait tenir ensemble, y compris de manière pas forcément très désirable. Et que ce qui nous permet de tenir, c'est toute une... un environnement infrastructurel qui que toujours dans nos travaux avec Yves, on a essayé plus de appeler intrastructurel en utilisant un jeu de mots qui vient de Karen Barad, où elle a mis en évidence la manière dont les infrastructures, en fait, c'est pas des structures qui relient simplement des choses qui sont là avant, comme ce qui entra, mais qui sont vraiment qui établissent les choses elles-mêmes et qui donc permettent à des choses d'exister d'une certaine manière, des choses qui n'existent pas au préalable et qui peuvent pas être juste dire il y a des choses indépendantes qu'on relie, mais c'est le lien lui-même en tant qu'intrastructure qui leur donne une caractérisation particulière, une forme d'existence particulière. Et on revient peut-être au jus de pomme. Et juste et sur la question de... Oui, j'ai dit, en fait, c'est pas vraiment ce que j'ai proposé. C'est pas une exposition de recherche, même s'il y a des recherches un peu en parallèle en cours qui font sens avec ce que j'ai dit, mais sont un ensemble d'éléments qui font partie donc d'une réflexion théorique et de pratiques et effectivement d'une revendication des choses qui me semblent importantes à la fois sur le plan de comment fonctionne le cinéma actuellement et de comment on le transmet, donc des questions de pédagogie. Et la dernière chose que je voulais dire en réagissant, c'est que une des choses sur lesquelles donc, les objets, le terrain de recherche dont je parlais par rapport à ce que disait Olivier, sont des expériences qui se passent un peu dans une forme de pénombre, qui se passent et s'entretiennent et se reproduisent dans cette pénombre-là, à la fois en ligne et offline et hors ligne. Et que un des enjeux de faire un travail sur ça, c'est de les valoriser sans les abîmer quelque part ou sans leur porter atteinte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge de manière assez claire, par exemple en travaillant sur des plateformes semi-pirates ou qui vivent dans une zone grise de diffusion du cinéma, qui se base beaucoup sur des économies alternatives d'échange, de dons contre dons, d'engagement, etc. Et qui font aussi un travail sur des diffusions sur des films dont ils n'ont pas les droits, etc. Mais qui ne sont plus édités. Donc voilà. Et donc un des enjeux du côté de la recherche plus vraiment universitaire est de travailler avec elle sans les mettre en danger et donc sans les sortir de la pénombre. C'était un peu moyen entre visibilité et invisibilité, cette discrétion là qui leur permet d'exister et qui le ferait peut-être le mettrait en danger autrement.
Ce que tu dis là me fait penser à des réflexions au moins potentielles sur le patrimoine dans les champs de l'architecture et de l'urbanisme. C'est-à-dire que voilà, on a un champ patrimonial, des métiers du patrimoine qui sont complètement codifiés, etc., qui sont en train de se rendre compte que ça ne marche plus du tout parce que ça passe sur une réduction de l'architecture ou du territoire de façon plus large à des valeurs et à des contenus quoi, et qui sont évalués, etc., etc. Et en ce moment il y a une espèce de fragilité qui est, je pense, assez favorable pour essayer d'inventer d'autres façons de faire patrimoine et qui n'en sont justement plus du tout de l'ordre du classement et où il faut faire remonter en deçà du visible justement et ça va avec ce que tu dis, cette espèce de fragilité comme ce qu'on fait pour ne pas protéger quelque chose, mais le valoriser, pas au sens de la valeur mesurable, mais au sens complexe et sémantique du terme, sans l'abîmer, quoi. Parce que voilà, on connaît tous les trucs, alors les critiques de l'UNESCO, des villes musées, de toutes ces choses-là, quoi. Et je trouve que ça touche. Enfin voilà, il y a plein de résonances par rapport à ce que tu dis, quoi.
Totalement. Bah, par exemple, pour aller dans ta direction et répondre à Olivier, on est en train de publier un livre qui est une traduction d'un livre états-unien qui s'appellera Patrimoine pirate, patrimoine écrit et barré. Patrimoine barré, pirate, sur les aventures, à partir des aventures de cette plateforme qui s'appelle UbuWeb, mais qui a pour sous-titre, je pense, circulation, archives et polémiques à l'âge du numérique, et qui justement va dans cette direction-là. Donc, pensez, qu'est-ce que c'est que cette cinémathèque sauvage, diffuse, éparpillée et non institutionnelle, qui produit de la valorisation, et pas de la rentabilisation, mais de la valorisation, et pas d'exploitation de films, et qui permet à des répertoires de cinéma d'exister, d'être transmis, d'être étudiés, d'être racontés comme d'un point de vue historique, etc. Et donc, ouais. C'est une des choses sur lesquelles on travaille. UbuWeb.
Ouais, je l'ai mis là pour. Ouais, c'est pas la meilleure page, mais c'est incroyable.
C'est une des plus anciennes plateformes de distribution de contenu en ligne d'avant-garde expérimentaux qui existe depuis le 96 et qui a navigué à travers plein de problèmes, plein de des plantes, plein de et qui existe toujours. Grâce à la manière dont des collectifs prennent soin d'elles.
Et est-ce qu'il y en a d'autres, des plateformes comme UbuWeb ?
Oui, il y en a des... Heureusement, c'est... Alors déjà, UbuWeb existe à partir... Donc c'est une espèce de grande collection qui est une forme de méta-collection. C'est-à-dire quand Kenneth Goldsmith commence à faire ça, donc c'est un New-Yorkais, un poète expérimental new-yorkais qui commence... à republier des choses qui ont été collectées par d'autres et qu'il s'agit parfois de numériser. Et donc, cette plateforme, elle est fruit d'autres plateformes de récolte, de collections qui étaient de collections, par exemple, privées, des gens qui faisaient des VHS, qui enregistraient la télé ou qui faisaient des copies pirates de DVD, etc., etc. Donc, si ça existe, c'est parce qu'il y a plein de situations de patrimonialisation sauvage de choses dans lesquelles il va puiser et qu'il va republier et mettre en ligne. Dans le sens des livres qu'on est en train de publier et traduire avec un espace un peu critique dans l'édition, Patrimoine pirate, il parle de son aventure chez UbuWeb, Kenneth Goldsmith, mais il parle aussi de toutes les expériences jumelles, un peu de galaxies, archipels, des choses qui tournent les unes à côté des autres. Par exemple, il parle de Monoscope. Il parle de Zed Library, il ne parle pas de Serving Library, mais c'est une autre chose comme ça. En France, moi, ce que j'utilise beaucoup aussi pour mes étudiants, c'est Dérive.tv. Dérive.tv. Et il y a un ancien étudiant de cinéma de Lyon qui a fondé une autre espèce de cinémathèque alternative qui s'appelle les archives numériques du cinéma algérien, qui a une page Facebook et une chaîne YouTube fondée par un ancien étudiant de cinéma qui est devenu la référence la plus importante de patrimoine cinématographique algérien. Donc tout seul, ce type, il a réussi à créer un répertoire de cinéma algérien qui est plus important que celui de la cinémathèque d'Alger. Et que maintenant, il est en discussion avec les instances du ministère de la Culture algérien pour valoriser ce qu'il fait, même si c'est totalement borderline. Il fait des choses, il récupère des vieilles éditions qui ne circulent plus, il les numérise, il les met en ligne. Mais il est devenu, quand je parle d'une cinémathèque sauvage, c'est devenu vraiment un organisme de diffusion, de préservation et de transmission d'objets qui sont les fonctions qu'on attribue aux cinémathèques d'habitude. Donc je veux dire que ça prolifère et qu'il se superpose et que ça nourrit mutuellement et quand peut-être ça va sauter totalement au web, il y aura quelqu'un d'autre qui aura téléchargé ces films et l'aura remis en ligne. Et bon... Moi, je m'intéresse à ça en ce moment, à raconter des histoires de plateformes et de manière peut-être presque ethnographique, entre ethnographie et théorie des médias. Et voilà.
Merci.
C'est intéressant que, ouais, pour moi, quand t'as tourné cet après-midi vers ces questions du contenant, plutôt du contenu. Ça m'a beaucoup parlé, ça fait résonance avec en fait le trajectoire du projet Sensibilia. Là, on arrive à notre troisième année. Ouais, c'est juste. Qui est une année d'écriture surtout, dans les questions du contenu qu'on va produire. Mais avec ça, avec ces formes, viennent les questions des formats en fait, où on le fait. D'une manière, ça ne devient pas une des questions que je trouve très intéressant et très ouvert et que le projet nous donne une manière de l'expérimenter un peu. C'est pas juste de produire des contenus qui sont attendus. Les articles, les bouquins, même les films. Alors, il y a plein de différentes productions, des productions, des installations sonores, des films. Des écrits, plein de différents écrits, des projets ou des... Ouais. Et en fait, comment est-ce qu'on peut commencer à expérimenter ces formes de... Ouais, à la fois ces questions de public, aussi des questions très concrètes d'espace, de temps, où on les fait, avec qui, comment Et pour moi, ça a ouvert plein de questions autour de ça, très à la fois très presque cosmologique, mais écologique, cosmologique, mais surtout des choses très très concrètes. Ouais, ça fait écho à c'est pour ceux qui n'étaient pas là avec Sébastien et d'autres, on a fait une sorte d'installation sonore sur l'arrière-pays industriel de Grenoble, sur un enregistrement qu'on a fait sur 5 différents points de cet arrière-pays pendant le temps des sirènes, qui arrive tous les 3 mois où tous les sirènes... mais on l'a diffusé dans les jardins de plantes lors d'une... d'une journée d'expérimentation sonore, paysage sonore, avec une association qui s'appelle Apnée. Mais on a aussi joué dans les garages de l'école d'archi. Et on a aussi joué dans le laboratoire du Cresson. Et chaque fois, c'était complètement différent. Des publics... juste ça, des manières très simples, ça ouvre des questions pour moi, des questions très très concrètes de comment faire les choses en fait et comment peut-être aller un peu hors les murs comme dans les films, comment ouvrir vers des autres publics en fait, des publics qui nous attendent pas. C'est vraiment, je sais pas s'il y a d'autres dans Sensibilia qui veulent.
Je partage tout simplement pour dire ça tes questions. C'est vraiment, moi j'aime bien sentir le moment. Ce moment-là, en fait, où on... C'est vrai que les petites formes sensibles qu'on fait sont encore très émergentes. Mais c'est vrai, déjà, on est dépassé par cette question des conditions de la réception. Et on a reçu à l'atelier vidéo, puis après, on a reparlé avec elle pour un billet de blog, mais Missia Forlen, qui notamment avait pris part dans une association en Normandie à la fabrique d'une caravane cinéma. Voilà, tout simplement une caravane autonome en énergie avec des panneaux solaires, donc complètement tunée. Et avec l'enjeu explicite d'aller rencontrer et montrer. Alors, le processus précis, c'était que des images étaient tournées avec des travailleurs mobiles, donc des gens qui sont là le temps d'un chantier et qui dorment souvent dans des campings, dans des caravanes et dans ces lieux-là. Et en assez peu de temps, ils arrivaient à monter des films et ensuite à reprojeter aux personnes avec qui ils avaient échangé ces images. Et la question du dispositif mobile, alors il y a la Wapikoni mobile aussi au nord du Québec, enfin, il y a des expériences comme ça, mais c'est vrai que c'est, ça donne envie parce que tout d'un coup, le chantier, surtout Sensibilia, qui est très ancré, qui est un centre de gravité à Grenoble, pourrait imaginer une forme de, un format bivouac quoi, pour aller bah oui, partager ces formes-là, quoi, tenter quelque chose... pour essayer effectivement de, sans trop programmer, d'essayer de, voilà, d'expérimenter des formes de réception.
En tout cas, je pense que ça fait très écho aux questions qui sont beaucoup travaillées dans les départements d'art plastique et dans tout le domaine de la charge création actuellement. Donc la question du présupposé de ce qui doit être le contenant d'une transmission de connaissances universitaires et qu'il y a un peu des contenants préétablis et des écosystèmes de publication préfigurés qui permettent de faire certaines choses et pas d'autres. Et qui sont un peu mis en crise par des gens qui... par des gens comme vous, j'imagine aussi, mais qui essayent de proposer des manières autres de publier la recherche et donc d'inscrire la recherche dans le dispositif qui se diffuse, qui circule et qui trouve des publics. Et je pense que ça, c'est une question qui émerge dans pas mal de situations, y compris dans la recherche avec l'art.
Merci. Je crois là où on est la discussion, je trouve que ça nous pose la question, alors largement de la question de l'atelier et de plus précisément presque de l'établi, c'est-à-dire que toute production commence par un établi quoi. Alors l'établi, ça peut être l'ordinateur, ça peut être la table, ça peut être le lieu collectif, ça peut être la roulotte, ça peut être etc. Mais c'est-à-dire que le décalage par rapport à nos pratiques dans les formes d'écriture, peut-être commence-t-il par ce que tu as fait avec tes étudiants en créant un atelier pour regarder les films, autre. Et on voit bien que les cadres mêmes dans lesquels nous sommes inscrits, non pas qu'ils sont mauvais du tout, mais que du coup ils ont un lien fort sur la nature de ce que l'on produit. Et donc, changer d'établi, entre guillemets, se redonner des établis, même si peut-être, je trouve quelque chose... Mais alors, j'avais une question quand même, parce que sur la belle expérience que tu as faite pendant le Covid, et sans doute qui continue, se pose la question de... On a eu un colloque sur l'enchantement à Cerisy, là, qu'on a beaucoup de plaisir à être, et... Yves Vinquin parle de quelque chose qu'il appelle aussi les ingénieurs de l'enchantement. C'est-à-dire, je me demande si ton travail à toi, en tant qu'enseignant, quand tu produis ce genre de dispositif, ne relève pas un peu de ça, avec évidemment cette fonction critique qui est présente, qui fait que faire ça dans un établissement d'enseignement supérieur, même si c'est avec discrétion et même si ce n'est pas l'objectif, insère un décalage de fait avec d'autres formes d'ateliers. Et du coup, il y a quand même... Voilà, c'est un petit peu... On se transforme aussi les chercheurs, et peut-être une autocritique que je nous ferais, un peu des fois en ingénieur de l'enchantement, par des capacités à savoir faire des séminaires, des workshops, des ateliers, des formats d'écriture collectif, etc., etc. C'est une espèce de regard sur nous-mêmes là, qu'on est en train de procéder. Et en même temps, on y va avec les deux pieds, les deux mains et tout le cœur. Quoi. Mais voilà, quelque chose un peu comme ça que je ressens moi toujours lorsque j'organise des choses. Ou d'ailleurs, souvent, je me vois plus en train de regarder la chose que j'ai co-organisée ou co-organisée plutôt que de la vivre de l'intérieur pleinement. Une espèce de double regard comme ça.
Non, je suis totalement d'accord sur cette question d'abord de l'atelier. J'imagine que vous, à Saint-Sébilia, vous le voyez de notre côté, mais effectivement, le contexte dans lequel tu travailles, après, ça te pose des questions sur ce que tu produis et comment tout ce que tu produis peut être transmis. Et c'est aussi le cas de, peut-être, de ce qu'on a fait avec le collectif Murmure, qui existe toujours, donc qui a survécu à ces conditions particulières de la pandémie et qui c'est pour moi, c'est une, quand je serai grand, j'espère pouvoir être un ingénieur de l'enchantement. C'est très beau, je suis pas sûr que je le sois, mais en tout cas je pense que c'est assez juste comme visée, l'idée de réenchanter des, par exemple, c'est quelque chose qui circule pas mal dans certains milieux de pensée écologique, mais bon, réenchanter aussi les situations pédagogiques et les charges de désir, c'est très important. Moi, pour moi, quand je parlais de cette question de plus que de l'attention, de la curiosité, cet investissement de désir est quelque chose d'assez important, et dans un monde où le désir est un peu abîmé, je trouve. Du moins, je trouve assez intéressant ce qu'en dit Franco Berardi, Bifo, sur l'épuisement du désir. Et pour moi, ouais, le fait de pouvoir proposer une situation dans laquelle il y a un désir qui s'active, et de voir des étudiants qui désirent être là, qui sont fiers d'être là et qui en parlent, etc., et qui proposent des choses, ce qui se fait pas immédiatement, parce qu'on a lancé ça avec un autre enseignant qui après a disparu par des problèmes de famille, et moi j'ai essayé de faire tenir la chose, et c'est moi, comme je suis l'enseignant, c'est moi qui a la clé pour ouvrir les salles, et que petit à petit les étudiants ils s'investissent et ils prennent la chose, etc. Donc là il y a un grand effort à produire, et c'est pour ça aussi que bon, je me vois aussi, quand tu dis de se voir pas participant, mais avoir un peu agencé la chose, après la chose se produit. Moi, je l'entends de ce point de vue-là, et c'est très beau. C'est trop beau quand ça se passe comme ça, que tu as initié quelque chose avec d'autres, et que cette chose après fonctionne à sa manière. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus touchant.
Je crois que c'est une belle note à finir dessus. Merci beaucoup, Jacopo.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à Laure. Merci à Sam. Jules et Cédric.